Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Que veut dire le mot « Église » ?» Nous commençons aujourd'hui une série d'études au sujet de l'Église. C'est un sujet très important, puisque la Bible nous dit que Jésus a donné sa vie pour l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. C'est aussi un sujet qui est très mal compris. On trouve par exemple deux extrêmes. Il y a ceux qui semblent penser que c'est Jésus ou Dieu qui sont à l'origine de toutes les dénominations. Un artiste ivoirien exprimait cette pensée dans sa chanson « Victoire » où il dit « Jésus est arrivé. Il a créé beaucoup d'églises. Assemblée de Dieu, attaquez les maquis. Royaume de Dieu, attaquez les cinémas. Protestants baptistes, il prêchait partout. » Beaucoup pensent, en effet, que toute église, quelle que soit sa doctrine, est venue de Dieu. D'autres disent que l'église catholique et l'église protestante sont les seules églises valables, pour la simple raison qu'ils les connaissent depuis un certain temps. Leur réaction à toute autre église est souvent « ça c'est quelle église encore ?» Quand nous parlons de l'église du Christ, on croit souvent que c'est une nouvelle église, que c'est une secte ou que c'est une organisation américaine. Or, l'église n'est aucune de ces choses. Si on dit « l'église tout court », d'autres pensent qu'on parle de l'ensemble des dénominations réunies, ou bien de ceux qui, dans toutes les dénominations, sont sincères dans ce qu'ils font. Mais ce n'est pas là non plus le vrai sens de l'Église. Dans notre étude de ce sujet si mal compris, la première étape sera de déterminer le sens du mot « Église » dans la Bible. Le mot français « Église » est dérivé d'un mot grec « Ecclesia ». Littéralement, ce mot grec désigne l'ensemble ou le groupe de ceux qui sont appelés hors de la société en général. Ce mot était employé pour parler d'un jury composé de personnes choisies du milieu d'une communauté pour juger une affaire. Il était employé pour un rassemblement quelconque, mais le mot faisait penser à la responsabilité de ceux qui étaient appelés, ainsi qu'à leurs privilèges, et qu'au fait qu'ils étaient distingués de la population en général. Ce sont des idées que l'on voit en 2 Corinthiens 6, verset 16, à chapitre 7, verset 1, où l'apôtre Paul applique aux chrétiens un passage de l'Ancien Testament, où Dieu s'adressait à Israël. « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Être un peuple appelé par Dieu est certainement un grand privilège, une grande bénédiction. Mais être différent, c'est souvent être mal compris par les autres, même au point d'être persécuté. Cette persécution a commencé très tôt dans l'histoire du christianisme. 1 Pierre 4, versets 3 et 4 dit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la sensualité, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. L'Église est un peuple à part, un peuple distinct par sa façon de vivre, sa foi, sa responsabilité, sa relation avec Dieu et son destin éternel. Voilà ce que suggère le choix du mot « Église » que nous trouvons dans la parole de Dieu. Mais qu'apprenons-nous par la manière dont ce mot est employé dans l'Écriture? En fait, le mot « Église » est employé dans trois sens différents. Parfois, il se réfère à tous les sauvés, partout dans le monde, tous ceux qui sont en Christ, sauvés de leurs péchés par Jésus. C'est ainsi qu'il faut comprendre le mot en Éphésiens 5, versets 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est de l'Église dans ce sens que Paul parlait quand il dit en Philippiens 3, verset 6, qu'avant sa conversion, il était persécuteur de l'Église. C'est aussi dans ce sens que le mot « Église » est employé en Colossiens 1, versets 18 et 28. Christ est la tête du corps de l'Église. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est l'ensemble de tous les sauvés, partout dans le monde, qui constitue l'Église, le corps spirituel du Christ. Évidemment, il n'y a qu'une seule Église dans ce sens. Jésus n'a qu'un seul corps. Un deuxième usage de ce mot se rencontre dans de nombreux passages comme Philémon, versets 1 et 2, où Paul adresse sa lettre à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Église, dans ce verset, se réfère sans aucun doute aux sauvés dans un lieu donné, qui fonctionnent ensemble comme les membres d'un corps pour l'aide mutuelle et des objectifs communs. Employé dans ce sens, il n'est pas rare de trouver dans la Bible le mot « Église » mis au pluriel. Romains 16, verset 16 dit, par exemple, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. » Paul parlait bien sûr des assemblées locales qui existaient dans différentes villes. Chacune de ces assemblées avait ses propres conducteurs, comme nous le voyons en Actes 14, versets 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Jésus a employé le mot « Église » dans ce sens local en Matthieu 18, verset 17, en parlant de la manière d'agir envers un chrétien qui pêche et refuse de s'en repentir. Jésus dit, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. » Finalement, nous trouvons le mot « Église » employé dans la Bible pour désigner une assemblée de chrétiens locales réunis pour l'adoration. En 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul donne des principes pour gouverner ces réunions d'adoration, surtout en ce qui concerne l'emploi des dons miraculeux que possédaient plusieurs membres de l'Église à Corinthe. Au verset 19, il se réfère au don de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Il dit, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Quand les membres d'une assemblée locale venaient ensemble pour adorer Dieu et exhorter les uns les autres, il aurait été inutile de parler une langue que les assistants ne comprenaient pas. Mais pour le moment, Ce qui nous intéresse dans ce verset est le fait que Paul emploie l'expression dans l'Église pour dire dans la réunion d'adoration. Plus tard, dans le même chapitre, au verset 34 et 35, il est évident que l'apôtre emploie l'expression de la même manière. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Encore, en Colossiens 4, verset 16, le mot est employé de la même manière. Paul dit, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. » Il est important de noter que dans le langage moderne, le mot « Église » a revêtu des sens qui sont étrangers à la Bible. En étudiant donc la parole de Dieu, nous devons nous méfier du danger d'interpréter des passages en attribuant aux mots des significations qu'ils n'avaient pas à l'époque et qui ne pouvaient pas être présentes à l'esprit des auteurs inspirés. Par exemple, quand la Bible parle des églises, il ne s'agit jamais des dénominations, c'est-à-dire des communautés qui se distinguent les unes des autres par leurs noms distincts ainsi que par des croyances et des pratiques différentes. On parle aujourd'hui des églises catholiques ou protestantes, des églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, etc. Elles ont des croyances en commun, bien sûr, mais chacune se distingue des autres sur certains points, et chacune porte un nom particulier pour l'identifier, d'où le terme « dénomination ». Quel que soit le terme que l'on adopte pour parler de ces groupements ou communautés, il faut comprendre que ce phénomène n'existait pas au premier siècle et le mot « église » n'est jamais employé dans la Bible pour en parler. De nos jours, le mot « église » est parfois employé pour parler du clergé, c'est-à-dire des pasteurs ou des prêtres et des évêques qui, dans certaines communautés, prennent les décisions et parlent officiellement au nom de toute la communauté. On dit par exemple que l'Église ne permet pas aux prêtres de se marier, que l'Église s'oppose à l'avortement, ou que l'Église sensibilise ses membres concernant les besoins des victimes du sida. Ce langage sous-entend une nette distinction entre deux groupes au sein de la communauté. Les dirigeants ou clergés, désignés par le mot « Église », et les membres ordinaires ou laïcs qui sont considérés comme des fidèles mais qui ne partagent pas forcément le point de vue des dirigeants. La Bible ne parle ni de clergé ni de laïcs et n'emploie pas le mot « église » dans ce contexte. Enfin, la Bible n'emploie pas le mot « église » pour parler d'un bâtiment où les chrétiens se réunissent pour le culte. L'église, c'est-à-dire les sauvés, est parfois comparée à un bâtiment. Mais il s'agit d'une maison spirituelle. Et les briques ou pierres qui la composent sont des chrétiens individuels. L'Église est donc un mot pour se référer à ceux qui ont accepté l'appel de Dieu pour sortir spirituellement du monde afin de recevoir le salut en Jésus-Christ et devenir un peuple qui lui appartienne spécialement. Ce sont les sauvés, qu'on parle de tous les sauvés partout où ils se trouvent dans le monde entier, qu'on parle de ces sauvés qui vivent dans un même secteur géographique et qui forment un corps de chrétiens pour adorer et servir Dieu ensemble, ou qu'on parle des sauvés quand ils se réunissent pour un culte. Le Seigneur aurait pu sauver des hommes sans que les sauvés soient particulièrement associés les uns aux autres, sans qu'ils forment un groupe qui ressemble à un corps. Mais dans sa sagesse divine, il a voulu ainsi. Acte 2, verset 47 dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » L'Église est donc un sujet qui mérite bien notre étude, et nous vous invitons à suivre cette série avec nous du début à la fin.
À qui il est doux, à qui il est beau de voir venir ensemble l'Église unie, un seul dans l'amour qui l'assemble. Toute sa force et la douceur qui sincère et profonde chaque frère et chaque sœur est un exemple au monde. Dans l'allégresse ou dans le deuil, son Église est fidèle, car l'amour pour elle est seuil de la vie éternelle. Plus précieux qu'un coffre d'or est l'amour qui les lie. C'est une fortune, un trésor dont